La typologie des sacrifices dans la Genèse. Dans la perspective d'une lecture canonique, c'est-à-dire suivant les règles de l'écriture, ouvrons d'abord la Genèse qui contient les grandes figures sur lesquelles et sera de manière privilégiée la réflexion des pères de l'Église. Dans ce livre, nous ne trouvons aucune prescription divine au sujet des sacrifices, mais nous constatons que spontanément, des hommes éprouvent le besoin de s'adresser à Dieu par le moyen de rites que l'usage codifiera par la suite. Les offrandes de Caïn et d'Abel. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et de leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Dans sa brièveté, le texte a toujours exercé la sagacité des commentateurs. À s'en tenir à ces versets, l'intention des deux frères est louable. Comme des fermiers, ils viennent apporter aux propriétaires du domaine une part du produit de leur travail. Par là, ils expriment leur reconnaissance et cherchent à obtenir la bénédiction du maître. Pourquoi donc l'offrande de Caïn n'est-elle pas agréée? S'agirait-il d'un caprice divin? La suite du texte nous offre une explication sous forme d'avertissement de Dieu à Caïn. Pourquoi t'irrites-tu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Si tu n'agis pas bien, le péché à ta porte te désire. Mais toi, domine-le. C'est-à-dire que Caïn était pécheur, c'est pour ça que son sacrifice est faux. Sans nous faire entrevoir la nature de ce péché qui tend à dominer Caïn, le texte nous ouvre une voie sur la nécessité de dispositions intérieures correctes pour que l'offrande puisse être agréée. Le rite comme tel ne suffit pas. Vous voyez. La suite de l'histoire est bien connue. Caïn tue son frère. Meurtre abominable qui sera puni cependant non par la peine du talion, mais par le bannissement. En quoi le meurtre d'Abel peut-il être considéré comme un sacrifice? Il faut ici interroger la tradition juive qui fait d'Abel le prototype des martyrs mis à mort en raison de leur foi. Voici en effet en quels termes le Targoum palestinien rapporte la dispute entre les deux frères. C'est une exégèse juive rabbinique. « Je vois, dit Caïn, que le monde n'a pas été créé par amour et qu'il n'est pas régi selon le fruit des bonnes œuvres et qu'il y a dans le jugement acception de personne, c'est-à-dire que Dieu est capricieux. » Il préfère les uns, n'aime pas les autres, sans raison. Pourquoi ton offrande a-t-elle été accueillie avec faveur? Abel répondit à Caïn en disant, je vois moi que le monde a été créé par amour et qu'il est régi selon le fruit des bonnes œuvres. Caïn répondit et dit à Abel, il n'y a ni jugement, ni juge, ni un autre monde. Abel répliqua à Caïn en disant, il y a un jugement, il y a un juge, il y a un autre monde. La dispute théologique sur la providence divine aboutit au meurtre d'Abel. C'est ainsi qu'il sera considéré comme le premier des martyrs. Jésus y fait allusion quand il évoque la longue série des prophètes persécutés et la clameur du sang injustement versé. Depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, c'est dans Matthieu chapitre 23, verset 35. Zacharie était un prêtre qui a été assassiné dans le temple de Jérusalem, enfin entre l'autel des sacrifices et le temple, par les autorités publiques et les juifs qui étaient furieux des remontrances et de la sainteté de vie de Zacharie. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, vous êtes des meurtriers. C'est pas agréable à entendre, hein. L'épître, mais vous voyez bien que ce reproche n'est pas fait aux juifs seulement. Caïn n'était pas juif. Il faut attendre Hébert et puis, comment dire, Abraham. Donc il le reproche à la nature humaine, pas seulement aux juifs. Depuis le sang d'Abel le juste. Réfléchissez. L'Épître aux Hébreux reprend le même thème dans sa galerie des héros de la foi. Hébreux chapitre 11 et 12. Évoquer le sacrifice d'Abel dans le sang parle encore, ce n'est donc pas commémorer seulement son offrande, mais bien davantage son témoignage courageux, soldé par le martyr. C'est ce que exprime clairement saint Cyprien, évêque de Carthage. Celui qui possédait la justice et la paix du Seigneur apparut comme le premier martyr. Par son sang glorieux, il fut comme l'avant-garde sur le chemin de la passion du Seigneur. Le sacrifice de Noé, je passerai rapidement, il offre des animaux. alors qu'il n'y a pas la loi de Moïse. Vous voyez, Noé est le descendant d'Adam et Ève, le septième patriarche. Et il y aura après lui Héber, qui sera l'ancêtre d'Abraham, d'où le terme d'hébreu pour la race d'Abraham, qui lui aura Isaac, Jacob, qui s'appellera aussi Israël, et qui aura les 12 tribus, dont Judas, qui a donné le terme de juif. Donc ça veut bien dire que c'est bien, bien postérieur. Et Noé fait des sacrifices sans que Moïse lui ait demandé d'en faire. Et au temps des patriarches, alors là par contre, justement, Abraham lui fait des sacrifices, et lorsqu'il va sauver Lot, et qu'il passera par Salem, il va offrir la dîme à Melchisédek. 10% de son butin sur les rois qui avaient attaqué Sodome et Gomorre, où était son neveu Lot. Et donc, si vous voulez, avant même les prescriptions de Moïse, vous avez des sacrifices et vous avez la dîme. C'est la religion adamique, c'est la religion naturelle. Et donc, le denier du culte et la quête, c'est de religion naturelle. Mais ça a fait l'église que vous voyez. Elle est jolie, elle est en fonte, elle est peinte, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Les artisans ont été payés. Et quand vous avez des prêtres qui gâchent l'argent offert pour le culte, eh bien, ils seront punis, ou par les fidèles, ou par Dieu. Mais les prêtres sont dépositaires du denier du culte, et c'est très grave. Ils devraient bien réfléchir à la maison diocésaine, les économes, ils devraient bien réfléchir lorsqu'ils gâchent, s'ils gâchent de l'argent. S'ils payent pour un logo à 20 000 euros à une société de com, il faut vraiment que ce logo soit magnifique. Mais le sacrifice d'Abraham, Genèse chapitre 22, alors là vraiment, c'est un sacrifice humain, c'est terrible. C'est vraiment le rachat d'Adam et Ève, et Dieu refuse ce don complet qui a été fait, mais il le refuse comme allant jusqu'au bout. Ce qui fait que un animal meurt à la place d'Isaac, mais lorsque Jésus va être arrêté et flagellé par les hommes et crucifié, le Père ne va pas empêcher la mort de son fils, qui avait déjà été mystique dans le jeudi saint. Jésus était déjà mort mystiquement en séparant le corps et le sang, le pain et le vin, le corps et le sang, substanciés la veille. À la limite, voyez-vous, c'est terrible, hein, c'est pour ça que la religion est quelque chose de fort, enfin, on ne doit pas mentir aux gens. Dieu, face à la violence, à la méchanceté, il oppose le sang. Le sang a dû couler. Jésus aurait pu sauver le monde avec le jeudi saint, avec la messe. Il prend du pain, il prend du vin, il dit de manière pacifique, c'est mon corps, c'est mon sang, comme 800 ans avant, 1700 ans avant Jésus-Christ, Abraham a vu Melchisédek offrir du pain et du vin, et il accomplissait le salut du monde. Mais il a fallu que son sang coule vraiment. Mais c'est vraiment son sang la coupe. Et ben, les paroles du Christ, il est Dieu, donc cette hostie, c'est lui. Il n'y a que Dieu qui peut être en plusieurs endroits. Quand il prend ce pain et qu'il dit que c'est son corps, c'est lui. Et les apôtres ont mangé avec immense respect. Et la coupe de vin est devenue vraiment son sang. Ça suffisait à la limite. Oui. Et il a fallu la violence du vendredi saint. Pauvre de nous. Et nous qui voudrions justement vivre pacifiquement. Et c'est terrible. Et la création souffre à cause des enfants d'Adam. Alors vous me direz, est-ce que Dieu aurait créé les lions alors s'il n'y avait pas eu le péché originel? Parce que les lions ont des dents qui montrent bien qu'ils mangent de la chair. Ils n'ont pas des dents pour manger de l'herbe. Donc Dieu a voulu aussi que dans sa création, il y ait une certaine violence. Mais alimentaire, c'est rare la cruauté pour la cruauté. Ouais. Moi, je suis... Et donc, le sacrifice d'Abraham, c'est très violent. Et les peintures religieuses sur le sacrifice d'Abraham sont très fortes. Hein. Très, très fortes. Vous avez c'est sur Amiens ou sur Reims ou je ne sais plus quelle cathédrale. Vous avez une représentation du sacrifice d'Abraham. Mais en grandeur nature, une statue impressionnante. Vous avez Abraham qui est là et son fils est entre ses mains. Hein. Et... Voilà. C'est Dieu le Père et Dieu le Fils. Sauf qu'on va dire, alors Dieu le Père a tué le Fils. Non, c'est l'homme qui a tué le Fils. Mais c'est vrai que Dieu a permis la mort de son Fils. Ensuite, vous avez la Pâque. Vous avez du temps de Moïse, ce sacrifice de l'agneau pascal, qui signifie vraiment la mort de Jésus. Aussi de manière très forte, mais peut-être pas aussi forte qu'Isaac. Le sang qui est mis sur les portes, et alors tout ce décorum, le fait qu'on ne puisse sacrifier l'agneau pascal que devant l'arche d'alliance. Les Hébreux devaient se rendre à Jérusalem pour avoir l'agneau pascal. Ils ne pouvaient pas sacrifier l'agneau pascal. Dans leur ville, il fallait aller à Jérusalem, uniquement à cet endroit-là. Pourquoi ? Mais parce que Jésus allait être immolé à Jérusalem, dans un lieu unique. Alors vous avez tous les extraits de la Sainte Écriture, hein, qui sont merveilleux. Exode chapitre 12, verset 26. « Quand vos fils vous diront, qu'est-ce que ce rite que vous faites ? Vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur. » Lui qui passa devant les maisons des fils d'Israël en Égypte, quand il frappa l'Égypte et délivra nos maisons. À toutes les Pâques juives en ce moment, à Paris ou ailleurs, à Jérusalem, lorsqu'ils font la nuit pascale, ils n'ont pas, ils ont les herbes amères, normalement ils sont debout, et si vraiment ils veulent faire jusqu'au bout, ils peuvent même avoir un bâton, et l'aîné, le cadet dit au père, qu'est-ce qu'on fait là ? Et donc c'est très impressionnant. Parce que la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich a dit « Je vis des juifs devant la porte de l'église. Ils voulaient entrer et ils ne pouvaient pas encore. » Une vision des années 1820. Mais c'est dans la Sainte Écriture. Hein. Le Christ dit « Vous ne me reverrez que lorsque vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc des juifs diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » pour Jésus. Saint Paul dit « La chute du peuple juif qui n'a pas reconnu son Messie a provoqué la conversion de tous les autres peuples et le baptême de tous les autres peuples. Mais que sera leur relèvement ?» Car il y aura relèvement, c'est-à-dire que les juifs, dans leur ensemble, vont devenir chrétiens dans les années futures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À quelle occasion ? Eh bien, lorsque l'Antéchrist fera reconstruire le temple de Jérusalem pour se faire acclamer Messie, avant, pendant ou après, il y aura suffisamment d'atrocités pour que les Juifs pieux se disent ben, « Si c'est pas lui notre Messie, puisqu'il est pour la débauche, l'avortement, l'euthanasie, alors c'était qui ?» Eh bien, vous avez les Juifs qui vont se dire ben, « Alors c'était Jésus. » Le temple reconstruit, un homme acclamé comme le maître du monde avec un gouvernement mondial et une banque unique, comme le demande Jacques Attali, hein, qui dit dans différentes interviews, il serait très le gouvernement mondial est prêt, si les souverainetés nationales ne s'inclinent pas devant ce gouvernement, il y aura une troisième guerre mondiale à cause du nationalisme, mais de toute façon, après cette guerre mondiale, Il y aura enfin ce gouvernement d'amour et de paix. Et il serait beau et symbolique que son siège soit à Jérusalem. Ah, texto, hein, sur, vraiment. Hein. Bon. Alors, pour terminer, le sacrifice de l'Alliance. Donc, lorsque vous avez Exode 24, 1, 11, on prend les animaux, on les sacrifie, et vous avez aussi le bouc émissaire. Je vais plus vite pour terminer. Le bouc émissaire, c'est quoi? Le grand prêtre imposait les mains sur un bouc pour que tous les péchés du peuple soient sur le bouc. Et ensuite, on faisait partir le bouc dans le désert où il mourait. Mais il était tellement couvert de péchés qu'on le laissait mourir dans le désert. Vous aviez aussi les sacrifices de la vache rousse, je crois. Mais le sacrifice s'est fait par le sang. Et Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï avec les deux stèles de pierre, gravées par Dieu, miraculeusement, par un éclair qui gravait la pierre, il a pris du sang et il a scellé l'alliance en aspergeant de sang les deux tables des 10 commandements et le peuple. Imaginez, ils étaient là, pic, pouc, pic, ils avaient des gouttes de sang qui leur tombaient dessus quand même. C'est pas rien, hein. Et parce que tout péché s'expie par le sang et toute alliance est scellée par le sang. Voyez, quand vous avez des gens qui ont des traditions, ils se coupent ils font une entaille dans la main et l'autre s'en fait une entaille dans la main et hop, hein, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a rien de plus précieux théoriquement en soi pour nous que le sang. Le sang, c'est la vie. Voyez. Eh bien, le Christ, lui, fait cesser tous les sacrifices sanglants. Le Christ dit maintenant, vous devez vous aimer les uns les autres et vous devez prier pour vos ennemis. Alors, vous allez dire, mais alors, il n'y a pas de guerre juste, il n'y a pas de guerre de défense. Eh bien, oui et non, oui et oui, non et oui. À un moment donné, un chrétien doit plus aimer son ennemi que se défendre de son ennemi. On ne pourra jamais s'échapper de cela. Et lorsque l'Antéchrist arrivera, je peux vous assurer que les armées chrétiennes ne seront pas suffisantes et qu'il y aura des martyrs. Et à un moment donné, on ne pourra pas répondre, hein, ni avec une mitrailleuse, ni avec des avions, ni avec des bombes nucléaires, n'est-ce pas? Les chrétiens mourront et ils seront massacrés. Voilà. C'est tout. À la fin des temps, il n'y aura que des martyrs, il n'y aura pas une belle armée chrétienne qui fera un baroud d'honneur. Entre-temps, il pourra y avoir des résistances, comme à travers les siècles, vous avez eu justement les croisades, vous avez eu les guerres de Vienne, la Hongrie, tout ça, qui s'est battu contre les armées ottomanes. Nous pourrons aussi nous battre contre des mercenaires, hein, islamistes ou pas. N'oubliez pas les harkis, qui ont défendu les Français de souche en Algérie et qui ont trouvé que c'était injuste ce qui arrivait. Et n'oubliez pas que non seulement des migrants et des immigrés, des fils d'immigrés, des Français de deuxième, troisième, quatrième génération se battront aux côtés des autres, ensemble, contre des ennemis, mais pas seulement, parce que la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, leur fera aussi connaître le Christ. Il ne suffit pas seulement de prendre fait et cause pour la France ou pour le pays où on est né. Ce qui est déjà bien, hein, par honnêteté naturelle. Mais aussi, quand même, au nom de Jésus, c'est encore mieux. Parce qu'en plus, voyez-vous, on a moins d'agressivité, moins de violence, et on peut mourir martyr. Et on a une religion qui, à un moment donné, lorsqu'on n'a plus d'armes, ben on n'est pas là, dans la haine, à dire « Que Dieu te maudisse, crève et va en enfer !» Non. Le Christ, lui, sur la croix, alors qu'il verse son sang, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Imaginez un peu les pharisiens, les docteurs de la loi, les prêtres qui entendent ça. Et qui le haïssent. Et notre Seigneur sera toujours de ce côté-là. Quand Jacques et Jean demandent si on peut raser une ville de Samarie parce que le Christ n'a pas été reçu dans cette ville, « Seigneur, veux-tu que nous appelions le feu du ciel ?» comme Élie l'avait demandé et obtenu. Et là, Jésus dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Donc à un moment donné, on ne pourra pas totalement se battre physiquement et on sera martyr. Voilà. Parce que la messe, parce que l'Eucharistie, parce que l'hostie, parce que le précieux sang dans le calice, parce que le baptême. Un chrétien, hein, c'est quelqu'un qui se noie dans la mort et l'amour de Dieu pour avoir la vie éternelle. Vous ne vous débattez pas dans l'eau, vous acceptez de mourir. D'ailleurs, c'est impressionnant. Aussi bien un bébé qu'un adulte, on le tue et il ne se défend pas. Parce qu'il meurt comme le Christ. Et il reçoit l'amour et les mérites du Christ. Et donc, il reçoit la vraie vie. Il abandonne une vie terrestre pour la vie éternelle. Sa passivité est en fait très dynamique. Il va vers la vie. Il accepte le poids du péché du monde et meurt comme le Christ a accepté le poids du péché du monde. Donc les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices des religions naturelles, comme ceux même des Aztèques, voyez, avec leur cruauté, s'évanouissent devant l'oblation et l'offrande de l'agneau de Dieu. Et dès que vous dites « agneau de Dieu », vous dites bien qu'il y a eu, il y a mort de l'agneau. Et dans l'Apocalypse, hein, pour terminer, on voit, Jean voit l'agneau comme immolé. C'est-à-dire, ben, il a un coup dans le cou, mais il est pourtant debout sur l'autel. Et vous avez en Irlande, dans la ville de Knock, K-N-O-C-K, il y a eu une apparition alors que le peuple irlandais était en train de mourir de faim, était persécuté par les armées anglaises comme jamais, dans les années 1890, qu'ils allaient avoir la famine, que les Anglais allaient les laisser mourir de faim, et que c'est là qu'ils ont survécu grâce aux pommes de terre. Vous avez dans un village reculé, des paroissiens qui passent en pleine pluie à l'arrière de leur église, et l'église, et le mur arrière de l'église devient lumineux. La pluie ne tombe plus sur 20 mètres autour, et vous voyez un agneau debout sur un autel, comme dans la vision de l'Apocalypse, avec six anges, ou trois de chaque côté, des archanges ou des séraphins autour, en adoration devant un agneau, et vous avez la Vierge Marie couronnée, vous avez vous avez Saint Jean avec le livre de l'Apocalypse et Saint Joseph pendant plus de 2 heures. Pas un mot. Personnage brillant, lumineux, blanc et lumineux. Et vous avez 10, 20, 30, 40 villageois qui ont regardé ça pendant 2 heures. La vision s'est arrêtée. Et après, ils en ont dit autour d'eux. Mais 40 personnes, je crois au moins 40 personnes, qui disaient exactement la même chose dans les mêmes circonstances, eh bien l'évêque du lieu a reconnu cette apparition. Et c'est un sanctuaire irlandais où les gens viennent se recueillir, où on a fait les statues correspondant à la vision. Et vous avez l'agneau. Vous vous rendez compte? Jésus aurait pu apparaître en enfant, l'enfant Jésus, Jésus crucifié. Ça a été un agneau. Souvenir pour nous qui offrions des animaux, eh bien Jésus est comme un agneau qui au bout d'un certain temps ne se débat plus. Quand on le mène à l'abattoir ou quand on le tond, à un moment donné, il ne bouge plus. Ils sont comme résignés. Voyez, toutes ces images et ces figures pour Jésus. Et parmi vous, il y en a qui vont être baptisés. Alors ne vous inquiétez pas, je ne verse pas beaucoup d'eau. Soyez bien passifs comme des agneaux.
Vous ne serez pas plongés.
Non.